Les chemins de travers de la recherche. Radio du théâtre. Bonjour, bonjour Mélie.
Bonjour.
Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui pour cette troisième émission des chemins de travers de la recherche, qui sont un ensemble d'émissions pensées par le laboratoire LITEAR de l'Université Grenoble-Alpes. Ces émissions qui ont pour vocation de parler de nos parcours de jeunes chercheurs, doctorantes ou docteurs, associés donc à cette UMR, et qui a pour objet, ou pour mission peut-être, de parler plus spécifiquement de nos recherches, mais sans parler de la spécificité de nos recherches, c'est-à-dire d'essayer de raconter toutes ces rencontres, toutes ces inspirations, tous ces chemins parfois délaissés aussi, mais qui auront composé tous nos parcours de jeunes chercheurs et qui nous inspirent peut-être tout autant que la spécificité de nos objets d'études. Donc aujourd'hui, avec toi Mélie, tu as pensé une émission qui ressemble un peu à un dialogue, parce que l'écriture d'une émission radiophonique, elle est multiple. Et aujourd'hui, on va essayer de dialoguer comme ça. Alors c'est un dialogue qui est très préparé, parce que tu as vraiment beaucoup préparé cette émission. Et au fur et à mesure de cette émission, on va présenter un petit peu ce labo. Comment toi, tu le perçois, comment aussi est ta place. Pour revenir aussi après aux journées d'études qui se sont passées il n'y a pas longtemps, mais...
C'est ça. Les 13 et 15 juin.
Ah, juin.
13 et 14 juin.
Qui se sont passées en juin pour pouvoir voir en fait comment on les a organisées. Enfin, pas nous, mais comment elles ont été organisées, quels ont été les thèmes, comment les échanges ont pu se passer, le rôle aussi du cinéma, puisqu'il y a eu des projections.
Oui.
Et aussi, revenir un petit peu sur les multiples casquettes qu'on pourrait avoir au sein du labo.
Oui.
Ou au sein, plus généralement, de nos recherches et comment on articule tout ça. Donc, bienvenue à toi, Mélie.
Merci.
Pour commencer.
Je suis ravie d'être là avec vous pour parler de la vie doctorale.
Donc, commencer peut-être une petite présentation, tu pourrais te présenter.
Oui, donc je m'appelle Mélie Basset, je suis doctorante en troisième année au laboratoire LITEAR en langue et littérature du XVIIe siècle. Et je m'intéresse donc au discours de conseil dans les longs romans du XVIIe siècle. Je suis sous la direction de Stéphane Massé et co-encadrée par Cécile Lignereux, qui sont donc tous les deux des enseignants-chercheurs en langue et en littérature d'Ancien Régime. Et je suis par ailleurs représentante des doctorants au conseil du laboratoire avec donc Lucie Bonnet qui est représentante nommée et qui travaille elle non pas sur la littérature mais en art du spectacle sur le cirque avec pour titre de thèse le corps aérien, lire le sensible et écrire l'éphémère.
Alors on voit déjà que notre laboratoire rassemble différentes disciplines et on y reviendra plus tard. Alors toi, tu es dans ce conseil, mais donc tu connais bien aussi la vie doctorale au sein de l'UMR.
Exactement.
Mieux que certains qui se sentent un peu plus isolés. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'est l'ITEAR ?
Oui. Alors l'UMR, tu le cites très bien, donc ça veut dire l'unité mixte de recherche. Nous, on est l'UMR 5316, donc c'est son petit nom CNRS. Elle a été créée l'unité mixte en 2016. En préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'on va bientôt justement fêter nos 10 ans. Et elle est actuellement dirigée par Isabelle Cogitor, qui est professeure de langue et littérature latine, et Anne Garcia Fernandez, qui est ingénieure de recherche CNRS. Je reviendrai sur le rôle de l'équipe Élan dans le laboratoire. Et cette UMR rassemble pas moins de 70 enseignants-chercheurs et presque autant de doctorants, puisqu'on est environ une soixantaine, à la fois donc en lettres et en art du spectacle, de la scène et de l'écran. Il y a plusieurs membres. On a comme membre permanent depuis 2019 une chargée de recherche CNRS qui s'appelle Hélène Delvalle, qui travaille sur une période de l'histoire littéraire qui a été amplement négligée par la critique et qui s'étend donc de la fin du 15e jusqu'au début du 16e. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été sélectionnée, parce que c'est une période qui, en France, n'était pas encore étudiée. Et on a donc un groupe de 7 ingénieurs en humanité numérique. Composés donc ensemble, ils forment l'équipe Élan, donc Anne Garcia Fernandez, dont je vous parlais tout à l'heure, Arnaud B, Rachel Gobil, alors je les cite, hein, ça fait un peu listing, mais c'est important de rappeler leur rôle. Théo Roulet, Serena Crespi, Fanny Corsi et même des emplois étudiants en contrat en CDD. Nassim Mandiouche, par exemple, qui gère la plateforme DAU. Et ensemble, donc ils ont été créés en 2017, ils offrent des outils, des méthodes et des techniques numériques pour les projets du laboratoire qui envisagent justement les humanités numériques. Et pour voir ce qu'ils font, j'invite les auditeurs à aller sur leur site internet. Par exemple, ils ont aidé à construire, je prends cet exemple parce qu'il a été mené par une doctorante, aujourd'hui jeune docteur, le projet Hugo en images, par exemple, qui est une bibliothèque numérique, des illustrations, des œuvres complètes de Victor Hugo et qui est portée donc, par Camille Page. Et elle a fait appel à l'équipe pour l'aider à imaginer un site qui permet de naviguer à travers plus de 2000 gravures et découvrir les différents illustrateurs et graveurs qui ont participé à cette entreprise éditoriale. Et donc on visualise comme ça sur le site, pour imaginer un petit peu les choses, des notices qui permettent d'analyser les images et donc d'entrer dans une lecture autre que littéraire, donc une lecture iconographique des textes de Hugo. Et en fait l'équipe a d'abord lui a donné les outils nécessaires pour qu'elle puisse elle ensuite de manière autonome gérer le site, parce qu'ils ne font pas tout, ils nous aident à lancer des choses, ils sont là comme appui. Et elle a pu ensuite prendre en charge toutes les modalités et au fur et à mesure de sa thèse, le compléter pour ensuite offrir un format numérique en annexe. Et donc ces types de projets, ils sont assez nombreux au laboratoire LIDAR, donc je ne pourrais pas tous les citer, mais par exemple, Corps Proust aussi, qui est une édition, un gros projet, est une édition numérique des lettres choisies parmi la correspondance de Marcel Proust. Et bien sûr, comme membre du labo, il y a tout le personnel administratif. C'était important de les citer parce qu'ils font un boulot extraordinaire pour appuyer à la fois la direction et aussi les différents membres du laboratoire dans leurs différents projets. On a par exemple à la gestion financière Magali Garnier et Diego Vidal. On a une responsable administrative et financière qui s'appelle Ludivine Raimondo et une chargée de communication qui s'appelle Julie Ridard.
Et tu as bien raison de les citer parce que leur travail est vraiment plus que nécessaire et vraiment très très précieux. Et donc à travers juste ces projets que tu as cités, il y a aussi les arts de la scène, il y a aussi le cinéma. Et donc il y a quand même un rôle pluridisciplinaire qui est inscrit, qui est un peu les fils rouges ou l'ADN de ce laboratoire.
Oui, alors la marque de fabrique de l'ITR, c'est effectivement une ambition pluridisciplinaire. En fait, le site de présentation, quand on va sur le site du laboratoire, l'explique très bien. En fait, ce « et » qui est donc, enfin, je précise pour les auditeurs sous forme d'esperluette, lit et art, affiche vraiment une ambition scientifique qui consiste à multiplier les croisements féconds entre littérature et art de la scène et de l'écran, voire plus, puisqu'en fait, l'ITR regroupe des enseignants-chercheurs qui travaillent, alors certes dans le domaine des littératures de l'Antiquité jusqu'au monde hyper contemporain, mais, et en plus donc, des arts de la scène et des écrans, mais aussi de la didactique littéraire, de la sociologie de l'art. J'y reviendrai également quand je parlerai des différentes écoles doctorales qui sont rattachées au laboratoire, de l'anthropologie de l'imaginaire et même, donc je viens de vous le dire, des humanités numériques. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui non seulement reflète, mais aussi participe à l'émergence de ces croisements entre disciplines. C'est le lieu où jusqu'à maintenant, on était installés. Alors, on va déménager à la rentrée. On a toujours été à Stendhal. Mais pendant une petite période, on a été à la MACI, qui est donc la maison de la création et de l'innovation. Et ce lieu est très important parce qu'il offre en fait des équipements assez extraordinaires pour le cinéma, le théâtre, la danse, le cirque même, et pour le numérique textuel, et qui est vraiment justement, qui reflète en fait ce lieu de rencontre pluridisciplinaire.
Et lorsqu'on parle de pluridisciplinarité, souvent on évoque des axes de recherche qui sont très forts. Est-ce qu'à l'intérieur, c'est une parenthèse, est-ce qu'à l'intérieur on a aussi des croisements entre des chercheurs de différentes spécialités ?
Oui, alors c'est vrai que le laboratoire est organisé en axes et en centres de recherche. Alors, je conçois que ça peut être un petit peu compliqué. D'ailleurs, les choses seront peut-être amenées, avec le changement de direction l'an prochain, à être simplifiées. Alors, en fait, pour l'instant, le laboratoire, il est organisé selon quatre axes de recherche. Donc, nouvelle philologie, traduction, transmission, réception des textes littéraires, expérience de la création et transversalité des humanités numériques. Et ces axes, ils s'appuient sur sept centres de recherche qui vont donc de l'Antiquité à l'hyper contemporain. Donc le centre charnière, le centre synesthéa, le centre écrire, le centre ISA, translatio, litextra et rare. Alors, ce serait long de revenir sur chacun d'entre eux, mais je peux vous parler de RARE, le centre auquel moi je suis affiliée. Donc, c'est l'acronyme de Rhétorique de l'Antiquité jusqu'à la Révolution. C'est un centre qui a été créé en 1998 par Francis Goyer, qui est professeur à la retraite de littérature française de la Renaissance, ancien directeur aussi de l'ITÉAR, et qui est le seul centre, par exemple, en France, qui est consacré exclusivement à la rhétorique. Donc, ce n'est pas rien. Et en fait, les membres de l'équipe, par exemple, explorent des corpus de rhétorique, que ce soit des traités, des commentaires ou des exercices. Et leur but, c'est de retrouver un savoir rhétorique de l'époque en mettant les textes à l'épreuve. En somme, d'encourager une lecture qui a été, qu'on a aujourd'hui perdue. Et pour ce faire, ils ont mis à jour un outil complexe de l'ancienne rhétorique, ce que Francis Goyer appelle les types de discours. Par exemple, vous avez un grand genre qui s'appelle le genre délibératif, sur lequel moi je travaille, puisque je travaille sur les discours de conseil, puisqu'il consiste à conseiller des conseillers. Et à l'intérieur de ce grand genre, on a des types de discours, par exemple le discours de consolation, d'exhortation, de requête. Et le but de l'équipe, voilà, c'est d'utiliser ces outils techniques pour passer d'une rhétorique théorique à une rhétorique pratique. Et par exemple, en 2013, les membres ont inauguré la publication d'une revue numérique qui s'intitule « Exercice de rhétorique » qu'on peut trouver donc en ligne et qui est conçue comme un espace assez rigoureux de recherche et de réflexion autour de toutes les pratiques d'analyse de la rhétorique. Donc ça permet de favoriser la visibilité des travaux des membres de l'équipe, mais aussi d'accueillir d'ailleurs tous les travaux qui éclairent de manière générale la pratique de la rhétorique. Et donc on analyse des textes, des discours complets, qu'ils soient antiques ou modernes, et historiques ou fictifs. Donc voilà, chaque centre dans la même idée a son identité, ses spécificités, son approche méthodologique, ses moyens de relayer ses recherches. Moi, je vous parle de la revue Exercice de rhétorique, mais les autres centres communiquent par leur propre revue. Par exemple, chacun aussi a ses modalités de rencontre. Par exemple, nous, on se réunit une fois par mois. Le séminaire dure 4 heures. On travaille en équipe, en table ronde, autour d'un sujet préalablement choisi. Et on organise parfois un colloque à la fin de l'année en lien avec la thématique annuelle, et ça peut donner lieu aussi à des publications en dehors de la revue qui est rattachée au centre. Par exemple, on a un programme de recherche qui s'est focalisé sur la narration oratoire et qui a donné lieu à un colloque en 2023 qui s'intitulait « La narration oratoire et les genres littéraires, 15e, 17e », et qui était organisé donc par Pascal Mounier, qui est professeur en littérature française du XVIe siècle et dont les actes viennent justement de paraître en juin de 2024 chez Classic Garnier. Donc voilà, ça c'est un exemple de centre. J'espère que les autres doctorants qui suivront se concentreront sur leur centre, parleront à la radio des modalités, et même ce serait sympa d'inviter aussi les directeurs des centres pour savoir comment ça fonctionne. Donc je lance aussi un appel à mes autres collègues doctorants pour vous parler des autres centres, parce que moi je ne les fréquente pas et c'est vrai que je ne pourrais pas vous dire par exemple ce qu'on fait à Translatio.
C'est vrai que c'est très important de parler de la spécificité de tous les axes de recherche, mais aussi de parler de comment se sont intégrés dans ces centres, comment on peut y participer, comment ils peuvent être stimulants, comment des fois la périodicité de rencontres, parce que c'est ça aussi, hein, permet de donner aussi des cadres, qui sont un peu des cadres invisibles, mais extrêmement opérants dans le cadre de la recherche. Peut-être pour revenir plus précisément à ton rôle, à tes expériences, à ta vie à l'intérieur de ce labo, est-ce que tu peux nous parler de la place des doctorants de manière peut-être d'abord générale?
Oui, alors les doctorants de l'ITÉAR sont répartis dans deux écoles doctorales, du collège des écoles doctorales. Donc il faut imaginer qu'il y a un collège des écoles doctorales et à l'intérieur plusieurs écoles doctorales. Donc le laboratoire, lui, il est relié à deux écoles, LLSH, donc langue, littérature et sciences humaines. Quand nos recherches vont porter sur la littérature, la langue et la littérature française, la littérature générale et comparée, et les arts de la scène et de l'écran. Puis on est aussi affilié à l'EDSHPT, qui est l'école doctorale Sciences de l'homme, du politique et du territoire, quand nos recherches portent sur l'histoire ou la sociologie de l'art. Et en fait, cette double appartenance à la fois au laboratoire, l'ITR, et à une école doctorale, que ce soit LLSH ou SHPT, forcément, ça multiplie nos activités en tant que doctorant. Et je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour expliquer justement cette vie doctorale plus en détail, qui, contrairement à ce qu'on imagine, ne consiste pas juste à rédiger une thèse. Sinon, bah, ce serait trop simple.
Je ne sais pas si c'est vraiment très simple, mais oui. C'est déjà un beau parcours. Par contre, c'est vrai qu'être doctorant, ce n'est pas juste être chez soi, dans la solitude de nos réflexions et devant notre écran, ou à la bibliothèque. Il y a aussi plein de rôles. Il y a même une triple casquette.
Oui, c'est vrai que quand j'ai réfléchi en tant que doctorant, je me suis dit qu'on avait une triple casquette. La première, c'est celle de l'étudiant, parce qu'en fait, on garde encore ce statut-là, on est des étudiants. Et ce volet, il se concrétise principalement dans les activités qui sont liées à nos formations, puisqu'il y a un minimum de 120 heures de formation qui est requis pour pouvoir déposer sa thèse, et 120 heures qui se déclinent en trois grands domaines, donc les formations scientifiques, les formations transversales et les formations liées à l'insertion professionnelle. Alors, il faut en théorie parvenir à équilibrer ces trois domaines, c'est-à-dire à peu près 40 heures forfaitaires par domaine. Et on a également une formation à l'éthique de la recherche qui est obligatoire à faire sur les 3 ans. Donc voilà, ça c'est à peu près le volet, la casquette étudiant. Alors, l'autre casquette est peut-être la plus conséquente, c'est celle de chercheur. Donc effectivement, le premier travail, c'est d'écrire notre thèse, avec toutes les recherches que ça peut impliquer, parfois pour certains même de se déplacer pour consulter des sources, pour d'autres de mener des enquêtes de terrain, je pense notamment ceux qui sont en recherche-création.
Ou en sociologie.
Ou en sociologie, voilà, comme toi. Mais en fait, ça ne se limite pas à ça, ça ne se limite pas à rédiger la thèse, puisqu'en fait, comme tout enseignant-chercheur, on rédige des articles et on participe, voire on organise des journées, des séminaires, des colloques qui prennent nécessairement beaucoup de temps en dehors de notre recherche et qui expliquent parfois d'ailleurs qu'on ne termine pas notre thèse en 3 ans. 3 ans qui est en fait la durée normale, je mets normale entre guillemets parce que bon, c'est si en fait on se base sur la durée des contrats doctoraux pour ceux qui ont la chance d'en obtenir un. Mais bon, on sait qu'en fait nationalement la durée moyenne en SHS, c'est-à-dire en sciences humaines et sociales, c'est plutôt 4 ans. Donc, à cette casquette de chercheur, on peut aussi rajouter, pour certains, un investissement dans la vie doctorale. En fait, le laboratoire, par exemple, nous, on a notamment une association des doctorants qui s'appelle l'ITESAR et qui a été créée en fait en même temps que l'ITR en 2016 et qui permet de coordonner différents types d'événements qui vont comme ça, au fur et à mesure de l'année, rythmer la vie des doctorants. Par exemple, on a une réunion de rentrée puisqu'il faut bien accueillir les nouveaux, donner les informations importantes. Et on a également donc les journées doctorales, j'y reviendrai en fin d'émission, mais également des séminaires doctoraux. Et tous ces moments en fait, de rassemblement conviviaux, ils permettent d'avoir des lieux d'échange et des lieux surtout d'entraide, dont l'objectif c'est vraiment de fédérer les jeunes chercheurs et de favoriser le partage d'expériences. On a par exemple eu les années précédentes une série de séminaires, qui s'intitulait « Main dans le cambouis », qui étaient en fait des séminaires assez pratiques qui visaient vraiment à aborder certains aspects concrets de la vie doctorale. Ils avaient pour titre, par exemple, « Thèse et éducation nationale » ou « La campagne d'ATER, pourquoi, comment ?» Et tout ce volet-là, ça fait partie du travail du chercheur et on met en ligne ces informations sur le site des doctorants de l'ITR, donc sur le carnet hypothèse qui s'intitule « Art, savoir, indiscipline ». Donc c'est vraiment important aussi pour notre communauté d'avoir tout ce travail à côté. Et cette association, par exemple, elle est entièrement gérée de A à Z par des doctorants. Donc une équipe assez féminine, il y a 6 membres du bureau. Donc Cécile Julion, elle en est la présidente. On a une vice-présidente également, Jeanne Montanvert, une secrétaire, Jeanne Mounier-Lompré, une vice-secrétaire, Madeleine Martineux, et une trésorière, Amandine Schlan, et une vice-trésorière, Solène Lépiné. Alors, les membres vont d'ailleurs un petit peu changer à la rentrée, mais on va rester sur une team féminine. Et je ne rentre pas trop dans les détails, parce qu'il me semble d'ailleurs que Cécile Julion va faire la prochaine émission en septembre. Donc, elle va nous expliquer, vous expliquer mieux que moi d'ailleurs, les tenants et aboutissants de l'asso. Et il y a aussi dans cette casquette de chercheur un autre rôle que je tiens donc avec Lucie, je vous en parlais en début d'émission, qui est le rôle de représentant des doctorants. On mène en fait 4 principales missions. On assiste une fois par mois à une réunion avec la direction du laboratoire pour faire remonter les demandes, problèmes ou les besoins de la part des doctorants. Donc réciproquement, la direction nous informe des événements, décisions et autres nouvelles qu'on doit communiquer à nos collègues. Donc il y a vraiment cette importance du lien entre doctorants et direction du laboratoire pour qu'il y ait toujours des échanges, pour qu'on ne se sente pas aussi seul dans nos recherches. On organise aussi, nous, des séminaires et des réunions d'information pour nos collègues. Par exemple, je vous parlais en introduction d'Hélène Delvalle. Elle est venue nous présenter le métier de chargée de recherche au CNRS. On a également eu... l'an dernier, il me semble, Éric Gouret, qui était chargé de projet de recherche et innovation. Donc lui, par exemple, il nous a parlé des modes d'accès à des post-doc européens. Et on fait aussi des choses en lien avec la vie concrète doctorale. Par exemple, à Diego Vidal, donc le gestionnaire financier, est venu nous former au nouveau logiciel de gestion des frais professionnels et de déplacement de Nautilus. Voilà. Bon, c'est des choses tout à fait pratiques, mais qui sont extrêmement utiles. Et on met aussi en place des dispositifs qui permettent d'améliorer l'expérience doctorale, par exemple en mettant un forfait de reprographie à disposition des doctorants qui ne sont pas financés, parce que c'est automatique pour ceux qui sont financés, mais ça ne l'est pas pour les autres. Donc les représentantes précédentes se sont mobilisées pour mettre ça en place. Et aussi, il y a toute une gestion, bien sûr, des tâches administratives, notamment coordonner la doctosalle. Alors ça, c'est plutôt Lucie. Et communiquer avec les doctorants, mettre à jour les listes de diffusion, entretenir en fait un contact régulier, parce que c'est vraiment très important pour pas qu'il y ait des cas isolés. Et toujours travailler aussi en collaboration avec l'association Litésar. Et enfin, dernière casquette, oui, effectivement, c'est celle de l'enseignant. Parce que pour certains d'entre nous, on fait aussi des vacations, donc on donne des cours en licence et en master. Donc forcément, ça prend du temps, un investissement en plus de l'écriture de la thèse. Alors, ceux qui ont un contrat doctoral, ils sont plafonnés à 64 heures équivalent TD par an. Pour ceux qui n'ont pas de contrat, il me semble que c'est pas plafonné, mais quand même, ça demande un investissement supplémentaire. Donc voilà, 3 casquettes qui multiplient nos activités, mais qui font, alors attention, je ne veux pas faire peur aux auditeurs qui envisagent de faire une thèse, c'est aussi ces 3 casquettes qui font la richesse de l'aventure doctorale, et d'ailleurs, c'est pour certains d'entre nous, c'est la raison pour laquelle on s'est lancé dans l'écriture d'une thèse. Donc voilà, on n'est pas juste chez nous à écrire ou en bibliothèque, il y a plein de choses à faire, et d'ailleurs, j'ai vu passer comme info sur le site de l'UGA qu'il y avait un forum du doctorat qui a lieu le 14 novembre de 15h30 à 17h30, qui est 100% en ligne, donc c'est vraiment pratique pour ceux qui ne seraient pas sur place. Et j'invite ceux qui envisagent à faire une thèse à y aller, parce que c'est important pour comprendre les modalités d'accès et du fonctionnement d'un doctorat, pour trouver un sujet, parce que parfois on n'a pas tout de suite de sujet, pour trouver un financement, parce que il n'y a pas juste les contrats doctoraux, mais même si on envisage de faire un contrat doctoral, il faut comprendre comment ça marche. Il y a aussi des bourses, des concours, donc c'est important ces lieux d'échange pour avoir les informations, quels sont les avantages de faire une thèse en co-tutelle, des séjours à l'international. Bref, c'est dire en fait les spécificités selon nos thématiques de recherche, parce qu'en fait l'école doctorale, donc je vous en ai cité 2, mais à l'UGA en fait il y a 13 écoles doctorales, et il faut bien aussi les connaître pour savoir dans laquelle on serait le plus à même de nous épanouir dans notre recherche.
Donc, ce qu'il faudrait retenir pour quelqu'un qui aimerait inscrire une thèse et peut-être nous rejoindre à l'ITR, c'est que on n'est pas seul. En tout cas, faire une thèse, ce n'est pas être dans une solitude, et qu'il y a un fort tissu de collaboration et de communication et d'échange. Et peut-être que les journées d'études, les journées de doctorales, montre aussi ces collaborations, ces échanges et ces expériences un petit peu particulières qu'on peut avoir lorsqu'on mène un doctorat. Mais alors, avant de venir plus précisément sur ces journées doctorales, on va faire une petite pause avec un intermède musical, c'est Eurythmics, qui nous parle un peu de pluie, parce que ça y est, il commence déjà à faire trop chaud. Et vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8 pour une émission proposée par l'UMR Littéar, Les chemins de traverse de la recherche. Avec nous ce matin, Mélie Basset. Et avec toi, nous allons évoquer donc les journées doctorales qui se sont passées en mai dernier, et que tu as pu suivre et même enregistrer, enfin faire quelques interviews pendant ces journées.
C'est ça.
Pour pouvoir avoir d'autres impressions, d'autres retours. Donc cette deuxième partie de l'émission, nous allons vraiment essayer de vous raconter cette aventure-là, qui était, dont la thématique était sur le document, l'art et les documents.
Oui, c'est ça. Alors, je reviens peut-être un petit peu plus sur l'organisation générale. Donc, qu'est-ce que nos journées doctorales à l'ITR ? Elles ont été créées en même temps que le laboratoire, donc en 2016. Et alors, la première année, je pense que les choses n'étaient pas encore tout à fait rodées. Donc, c'était uniquement les doctorants de l'ITR qui sont venus présenter leur sujet de thèse. Mais à partir de 2017, ils ont commencé à mettre en place des thématiques. Donc, chaque année, effectivement, on choisit un sujet sur lesquels donc, on invite plusieurs participants à discuter. Pour citer par exemple uniquement les dernières en date, en 2022 par exemple, elles avaient pour thème les prises de parole. En 2023, premier contact. Donc voilà, on voit déjà aussi par exemple à travers ces titres que le but c'est d'avoir une ouverture la plus large possible pour... lors de l'appel à communication qu'on diffuse sur des plateformes officielles comme par exemple Fabula, toucher un maximum de public. Parce que, en fait, ce n'est pas uniquement ouvert aux doctorants du laboratoire LITR, c'est ouvert déjà à tous les doctorants de l'UGA qui pourraient se retrouver dans la thématique. Et c'est aussi ouvert à d'autres universités françaises, voire étrangères. Et c'est ça qui est intéressant et qui fait la spécificité de ces journées doctorales, c'est vraiment d'échanger avec d'autres chercheurs qui ont d'autres visions.
Et ces journées donc, demandent quand même de l'organisation, je le sais bien parce que j'en organise moi-même, donc je vois bien qu'il y a quand même des petites choses à ne pas louper pour qu'elles soient réussies.
En effet, alors, il y a un comité organisateur effectivement qui se compose donc, de 3 à 6 doctorants, des parfois moins, parfois plus, qui se met en place dès les premiers mois de la rentrée. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la réunion de rentrée, en fait on lance un appel, on dit qui cette année va être volontaire pour faire les journées doctorales, et les personnes qui se portent volontaires vont vraiment les organiser de A à Z. Donc ça va du choix du thème jusqu'à la rédaction, enfin jusqu'à en fait le jour J gérer les choses, mais donc ça veut dire rédiger un appel à projet, demander les subventions à l'école doctorale et au laboratoire qui nous subventionne gracieusement, gérer toute la partie financière avec l'aide bien sûr des trésoriers ou trésorières de l'association LITESAR, mais ça veut dire bon bah voilà, savoir faire des choses tout à fait pratiques dans l'UGA, c'est-à-dire réserver des salles, inviter le comité scientifique, qui est en fait bien souvent nos directeurs de thèse, enfin les directeurs de thèse de ceux qui organisent, lire, sélectionner les propositions de communication, créer le programme, bon bah voilà, organiser des sessions, des panels de sessions, créer les supports de communication, affiches, flyers, bref, prendre tout en charge pour que lors de ces 2 journées, tout se passe au mieux. Et donc c'est souvent entre les mois de mai, d'avril, enfin entre le mois de mai et juin de l'année.
Et cette année, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette 9e édition ?
Oui, alors cette 9e édition, elle était, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur le thème art et documents. Donc sur 2 journées, les 13 et 14 juin 2024 à la Massy. Et elles ont été organisées uniquement par 2 doctorants, donc Anastasia Gladouche-Cook, et qui travaille donc en littérature générale et comparée sur le Mexique, avec Delphine Rumeau, qui est professeure de littérature comparée et qui est spécialiste justement des liens entre poésie américaine, européenne et russe. Et c'est le thème de sa thèse hein, qui a quand même pas mal influencé ce thème art et documents, parce qu'Anastasia tient à ce lien entre littérature et art. Et Romain Fernandez, donc, qui travaille lui sur la littérature de science-fiction, et plus précisément de la littérature d'anticipation avec Delphine Denis. Non, c'est pas Delphine Denis, c'est Delphine Glaise, pardon, qui est professeure donc, en littérature du 19e siècle. Et donc lui, il essaye en fait de trouver des marqueurs génériques pour chacun des genres à travers la linguistique de corpus. Donc voilà, 2 littéraires qui ont organisé cette 9e édition, mais avec une ambition aussi pluridisciplinaire, art et documents. Et donc j'ai eu l'occasion d'interviewer Anastasia. Donc je vous propose tout de suite d'écouter donc sa présentation, et elle nous explique le choix, comment elle a choisi le thème et le propos de sa communication.
Bonjour, je m'appelle Anastasia Gladuchuk et nous avons organisé avec Roman Fernandez ces journées doctorales. Je suis doctorante en deuxième année à notre laboratoire et je travaille sur les imaginaires du Mexique dans les littératures du modernisme en France, en Angleterre et en Russie. Et le sujet de ma thèse explique en partie le choix du sujet de ces journées doctorales, parce que la plupart des textes de mon corpus, ce sont les textes non fictionnels. Ils traitent du Mexique sous l'angle documentaire, je peux dire. Ce sont les récits de voyage, des essais critiques. Et pour moi, dans le cadre de ma thèse, c'est important de déterminer à quel point le Mexique et représenter d'une manière fidèle ou non, comment est-ce qu'on peut distinguer le vrai du faux, quelle est la relation du rêve sur le Mexique qui traverse tous mes textes et la réalité brute marquée par les tourments de la Révolution à cette époque-là.
Oui, donc voilà, les recherches, elle l'explique très bien, d'Anastasia ont beaucoup influencé le thème de ces journées. Et ce qui était très intéressant également, c'est son introduction des journées doctorales, où pour les expliquer, en fait, elle est revenue sur le choix de la photographie qui constituait l'affiche des journées doctorales, qui est une photographie donc, de Walker Evans, d'un photographe américain du XXe siècle, et qui, lors d'un entretien, a répondu à la question suivante. Les photographies peuvent donc être documentaires tout en étant des œuvres d'art. Et question à laquelle il aurait répondu, donc Anastasia nous a introduit les journées avec cette citation. Documentaire, c'est là un mot très sophistiqué et trompeur et pas vraiment clair. L'expression exacte devrait être style documentaire. Un exemple de document littéral serait la photographie prise par la police sur le lieu d'un meurtre. Vous comprenez, un document a une utilité alors que l'art n'en a aucune. En conséquence, l'art n'est jamais un document puisqu'il puisse en adopter le style. Donc c'était très intéressant parce que cette citation, elle a lancé tout à fait toutes les problématiques qui ont été soulevées lors des journées. Et ensuite, chacun a traité le sujet selon ses propres perspectives.
C'est d'autant plus intéressant de citer Walker Evans, qui est à la fois un photographe, mais dont ses photographies ont aussi initié de la jurisprudence dans l'art, puisque ces photos ont été refotographiées par une photographe qui a exposé les photos et donc qui a fait une espèce de mise en abîme du documentaire et de la place aussi de ce geste photographique. Où est-ce que commence le document ou l'œuvre d'art et qu'est-ce qu'on protège dans ces cas-là? Bon, ça s'est mal terminé pour l'artiste Sherry Lewin qui a photographié Walker Evans. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui était présent et comment chaque contribution, les perspectives comme ça se sont peut-être rencontrées, liées, nouées, mises en perspective?
Oui, alors je vous parlais tout à l'heure de l'ouverture à d'autres universités et ça a été le cas pendant ces journées parce que, alors certes, une majorité était des doctorants locaux. En fait, il y avait 5 doctorants de l'UGA et exceptionnellement, il y avait également 2 masterants qui envisagent de faire une thèse, qui sont aussi des étudiants de l'UGA, et une chercheuse postdoctorale à l'UGA, donc en résumé 8 participants locaux, et 4 doctorants d'autres universités, donc l'Université de Paris, de Franche-Comté et même de Berlin. Donc les journées ont d'abord débuté par une introduction de Laurent Demance, qui est professeur en littérature contemporaine, parce qu'on a cette tradition à chaque journée doctorale d'inviter nos professeurs pour un premier temps de présentation, et on y tient beaucoup. parce que en fait on apprécie quand ils viennent nous écouter, qu'ils montrent un intérêt à nos différents travaux universitaires, pas uniquement nos thèses. Et c'est toujours aussi appréciable quand les professeurs en question sont soit spécialistes ou très intéressés par les thématiques et qui viennent nous offrir, et je reprends les termes qui ont été dits pendant les journées doctorales, hein, une brillante introduction. En l'occurrence, Laurent Demanz a retracé brièvement l'histoire du document. Il est aussi revenu en fait sur ses formes et ses enjeux. Il a posé les bases en matière de définition théorique. Et bon, alors le but, c'est vraiment pas que je fasse un résumé parce que c'était, il y avait des notions qui sont assez complexes et qui touchent pas vraiment mes objets d'étude. Mais voilà, il s'est appuyé sur l'appel à communication des deux organisateurs. Et ce qui était assez, ce que moi j'ai retenu aussi, c'était son témoignage, son soutien en fait. Et le fait qu'ils disent en fait qu'ils nous enviaient en fait cette tradition d'écouter d'autres chercheurs de notre génération faire des propositions de recherche, élargir en fait nos réflexions à d'autres genres, d'autres époques, d'autres disciplines. Et il a salué ce choix, le choix du thème qui est en fait central aujourd'hui parce qu'il traverse beaucoup de champs de recherche. Et ça a fait écho en fait avec la présentation qui a été l'après-midi, parce qu'on a eu également l'intervention d'Alice Folco, qui est donc maître de conférence en art du spectacle, qui elle aussi a affirmé qu'elle nous enviait. Pour la citer, elle a même dit « je suis un peu jalouse ». Donc les deux avaient une part de nostalgie dans leurs propos, de retrouver ces moments d'échange entre doctorants. Et ce thème d'ailleurs l'intéressait en plus, puisqu'elle elle travaille sur la question des sources qui permet de construire des récits, de restituer des faits. Donc elle a insisté aussi sur le fait qu'il fallait documenter la création en train de se faire. Donc des journées voilà, qui étaient ouvertes à plein de perspectives différentes.
Alors, le temps passant très très vite, je pense qu'on pourrait aussi en venir aux personnes que tu as pu interviewer et que tu as captées. Et donc du coup, il y a eu une intervention de Solène Lépiné qui travaille sur Proust et qui va peut-être nous rappeler sa participation. Son vécu.
Oui. Oui, alors je m'appelle Solène Lépiné, je suis doctorante au laboratoire Littéar de l'UGA, donc l'Université Grenoble-Alpes, et je travaille sur Marcel Proust et André Gide et le roman du réel. Donc plus précisément, j'étudie des documents génétiques pour étudier le passage d'une écriture symboliste au roman du réel en France au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, c'était centré sur les démarches de documentation que fait Proust, qui, au moment où il corrige son roman peu avant la publication, en 1913, pose des questions à divers correspondants, ses amis ou des collaborateurs divers et variés, afin de vérifier que certains termes qu'il a utilisés dans son roman sont corrects, sont exacts, et qu'il n'a pas inventé ou déformé la réalité. Donc ça s'inscrit dans la volonté d'écrire un roman réaliste, comme les naturalistes au 19e siècle, même si Proust est évidemment toujours un poète symboliste d'une certaine manière, puisque ce qu'il cherche, c'est le sens caché derrière les choses. Il ne veut pas seulement décrire des apparences. Donc il y a cette rencontre entre le réalisme naturaliste et la poésie.
Voilà, donc comme l'explique Solène, en fait, elle se base sur un corpus épistolaire proustien pour comprendre le processus de documentation adopté par Proust lors de l'écriture du roman Du côté de chez Swann. Donc ça, c'était un exemple d'une documentation à travers les lettres, puisque Proust, en fait, va essayer de chercher des informations auprès de différents collaborateurs pour écrire des choses véridiques pour qu'il y ait une scientificité à son œuvre. Donc ça, c'est un exemple littéraire, mais j'aimerais également parler rapidement d'une communication qui m'a intriguée et que j'ai eu également l'occasion d'interviewer. C'est Guillaume Balaguer, qui travaille, elle, au laboratoire Lidilem, donc le laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles. Donc voilà, c'est un exemple qui montre que les journées de l'ITR sont quand même ouvertes à d'autres laboratoires. Et bon, elle nous explique très bien sa recherche et en quoi surtout ce genre de journée est utile pour faire avancer nos réflexions en tant que doctorant.
Donc, bonjour, Guillaume Balaguer. Donc, je suis doctorante au laboratoire Lidilem. Je fais une thèse de recherche-création en sociolinguistique ethnographique et où je mélange la poésie, la performance et la sociolinguistique. dans une enquête de terrain sur la pratique féminine de la chasse dans le sud de la France. J'ai donc présenté une communication sur des expériences de transcription, partition poétique d'entretien. Donc le lien avec le document, c'est que c'est donc une fabrique de documents. D'un entretien, je fais un document sonore, l'enregistrement qui est les données. À partir des données, je fais une transcription. Normalement, en sociolinguistique, ce sont des transcriptions très rigoureuses, très fines, avec un système de conventions précis. Et moi, je travaille sur plusieurs types d'esthétisation, on va dire, ou de travail sur ce que c'est qu'une transcription en versifié. Donc avec tout un aspect critique du geste de transcription, une sorte d'attention performative ou de performance plutôt à ce que c'est que le geste de transcrire. Et puis après, j'essaye de voir des dispositifs performatifs aussi de transcription pour mettre en scène justement la relation d'enquête, voilà, la relation sociolinguiste, ethnographe et document de transcription. De toute façon, la notion de document, en fait, n'est pas tellement mobilisée comme telle en sociolinguistique. Donc moi, ça m'a obligée à y réfléchir et d'écouter surtout toutes les autres de communication. Ça a fait une grosse ébullition autour de la notion. Les questions ont été intéressantes sur le fait de, ben, par exemple, une des questions m'a été posée sur la partie manuscrite, le geste. Donc ça m'a permis d'aller plus loin aussi sur qu'est-ce que je vais faire de ces orientations-là. Donc voilà, donc c'était très très bon, une très belle expérience.
Voilà, donc tout est dit dans cet échange que j'ai pu avoir avec elle, et on peut l'entendre tout proche du tramway. Donc elle nous explique, voilà, elle croise une démarche, elle croise poésie, performance et sociolinguistique pour explorer en fait la portée critique ou analytique de l'acte de transcrire, comme elle le conçoit comme un geste, voilà, d'écoute et de création. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment la preuve que ces journées, elles accueillent d'autres méthodologies en dehors de celles de la littérature et des arts du spectacle ou de la scène et de l'écran. Donc ça reflétait vraiment, et même si c'était, voilà, un autre laboratoire, ça s'inscrivait vraiment, ça se répondait avec les autres communications.
Et avant de conclure cette émission qui passe très très vite, conclure d'ailleurs sur un volet très spécifique aussi de tes journées doctorales qui sont les projections, nous allons faire une petite pause musicale avec un morceau que tu as choisi, Mélie.
Oui, c'est ce que j'avais envie d'écouter ce matin.
Super. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8 et pour cette dernière partie d'émission, nous voudrions, avec Mélie, revenir sur la partie cinéma projection qu'il y a eu lors des journées doctorales de mai Arts et Documents.
Oui, c'est ça, je vous parlais. Donc on a abordé le volet littéraire, sociolinguistique, et c'est vrai que ces journées ont accordé une grande place à la pratique cinématographique. Et en fait, c'est grâce également à la salle de cinéma qui est présente donc en fait à la Massy. Et on a pu regarder trois projections. Alors d'abord, une projection de Marco Sanchez, qui est doctorant à l'UGA et qui travaille sur les gestes paysans et égoutiers, et qui nous a en fait présenté des rushs, qui correspondent pas vraiment à un travail abouti, mais il est en première année de thèse, donc il commence à réfléchir. On a également vu la projection de Magdalena Bourno, qui est elle donc post-doctorante à l'UGA, et qui nous a présenté ce qu'on pourrait appeler, moi de ce que j'en ai retenu, déduit, un documentaire subjectif qui s'appelait Biarré à la Semilla, donc qui suit son père qui est camionneur, durant le plus long voyage qu'il doit faire en Argentine. Et enfin, une projection de Mario Daniel Villagra, qui nous a projeté un documentaire sur une poétesse d'Argentine, d'expression française, qui avait pour titre donc Sylvia Baron Supervielle. Et moi, je voulais revenir là-dessus parce que je vous avoue que j'ai beaucoup aimé ces projections et aussi les débats et les discussions qu'elles ont suscitées sur la thématique art et documents. Et donc, je vous propose encore une fois d'écouter ces trois jeunes cinéastes à l'affilée, hein, qui parlent mieux que moi de leur travail, mais surtout aussi de la réception du public pendant ces journées face à leurs œuvres.
Je m'appelle Marco Sanchez, je fais une thèse actuellement en recherche-création avec le laboratoire Littéar. Et mon sujet c'est en gros sur la captation filmique d'un travail laborieux et usant pour le corps. Et du coup, pour ces journées doctorales, j'ai présenté une étape de travail parce que c'est ma première année. Où j'ai effectué un assemblage de rushs pour le diffuser du coup lors de ces journées qui étaient orientées sur les arts et les documents et montrer la matière brute du travail. Et suite à la projection, moi j'ai été étonné de la réception parce que pour moi c'est vraiment une matière que j'ai l'habitude de regarder, de travailler et du coup de faire face à un public qui n'avait jamais regardé ces documents et qui a été très réceptif. Mon grand étonnement, c'était très... je pense que c'est un espace très important pour ce processus de création. Et du coup, les discussions autour du thème des journées, j'ai l'impression que, comme c'était un format un peu hybride qui mélangeait plusieurs sortes de matières documentaires et de fragments de réel, il y avait un peu une impossibilité de définir si c'était soit du cinéma expérimental, soit ethnographique, soit documentaire de création, voilà. Et du coup, ça questionnait la matière brute des rushs. Est-ce que ce sera considéré comme un film documentaire une fois que ce sera assemblé? Est-ce que ça restera de l'ordre de l'expérimental? Ou est-ce qu'il y aura aussi une enquête ethnographique derrière? Et c'est des questionnements qui ont été relevés, mais qui restent encore en suspens. Mais je pense que c'est important que ces journées pour relever des questions de travail en cours, parce que c'est pas quelque chose qui sera établi forcément sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on fait de la recherche, c'est pas pour avoir une réponse précise.
Bonjour, je suis Magdalena Bournon, je suis chercheuse à la Massy, à l'université de Grenoble. Chercheuse postdoctorale en art de la scène, mais juste aussi réalisatrice et metteuse en scène. Et on m'a invitée à présenter à ces journées mon dernier film documentaire, mon premier long métrage qui s'appelle Viaje a la Semilla. Alors, il s'agit d'un documentaire des créations où j'accompagne mon père qui est routier, qui est camionneur, en Argentine, faire les plus longs trajets qu'il fait à l'année vers le nord du pays et où il transporte des graines du village où je suis née, de la région où je suis née en Argentine. Du coup, c'est un road trip père-fille où j'interroge un peu mes origines, que ce soit du côté de mon père et que celui de mon pays. Et du coup, je pense qu'on m'a invité à présenter ces films pour interroger la valeur du document. On a pu voir différents exemples de films documentaires où les statuts de documents est assez différent. En général, les gens sont assez émus parce que même s'il s'agit d'une situation très particulière, la mienne, celle de mon père, je suis partie avec ma famille très tôt d'Argentine, et du coup on parle de cette distance qui s'est créée entre nous. Malgré cela, la plupart des gens se sentent identifiés dans ces rapports père-fille. Ils voient leur propre père qui a du mal à parler de certaines choses, ou alors ils se projettent eux-mêmes en tant que père, en tant que mère, et leur rapport à leur enfant. Du coup, les publics est en général assez ému, et du coup, avec les publics, on a parlé un peu de ces formes documentaires comme celle-ci qui ont beaucoup à voir avec la fiction finalement, qui vont plus raconter une histoire qu'une histoire particulière, personnelle, plutôt que de se concentrer sur l'aspect ethnographique, sur par exemple la vie des camionneurs en Argentine concrètement.
Bon, je m'appelle Mario Daniel Bichagra et je présentais pour les colloques Art et Documents les films dédiés à Sylvia Baron-Supervielle, c'est une poétesse franco-argentin. Et justement, l'idée de projeter ces films, c'est justement de donner un témoignage de certaines époques, parce que Sylvia, il a 90 ans, donc ça commence dans la carrière des littéraires. Il donne un peu de témoignages d'une autre époque, mais le regard de contemporain, on peut dire. C'est un cinéma un peu anthropologique, dans le sens que le sujet principal, c'est une personne qui, à travers de cette personne, on peut recréer une ambiance d'une communauté, que c'est la communauté des écrivains, pour exemple, des écrivains dans l'exil. Si bien c'est documentaire, mais la recherche esthétique, c'est la recherche de cinématographique. C'est pour ça que dans le cadre de ces colloques, on a parlé de style documentaire, et ça me plaît qu'il y ait un style documentaire, mais une recherche cinématographique. Et on mélange là les arts et les documents. Chaque fois est assez différent. Ça dépend des publics, mais dans ces cas, comme les publics sont universitaires, il y a des questions précises sur la question de la réalisation, les sons de la musique, pourquoi on a choisi quelques extraits et non autres. Mais c'est assez différent, par exemple, la projection à Buenos Aires ou Montevideo, parce qu'on a l'impression de peut-être une vision un peu romantique d'ailleurs. Et cette documentaire donne de manière assez précise comment est-ce que ça déroule réellement la vie d'un écrivain dans l'exil. Je suis hispaniste, comme on dit en France, et je travaille surtout la littérature de Rio de la Plata, non, entre Buenos Aires et Entre Ríos, qui est ma province, et l'Uruguay, un peu sa région. Je fais une thèse qui s'appelle sur l'école des écrivains d'Entre Ríos, qui est une province de l'Argentine. Ça, c'est mon sujet de thèse.
Pour conclure, Mélie, peut-être que tu pourrais revenir sur ta propre réception de ces documents cinématographiques. Je crois qu'il y en a qui t'ont particulièrement plu.
Oui, moi, le film de Magdalena, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, on ressort de la salle à la fois ému parce qu'on rentre en fait dans sa sphère intime. Elle est toute seule comme ça avec son papa dans le camion et on la voit lui poser des questions, etc. Et à la fois, c'est un documentaire sur le métier de camionneur en Argentine. Mais ce qui était intéressant, et c'est ce qu'on a questionné à la fin de la projection, c'était ce rôle avec le document, parce qu'au fur et à mesure, son père, on le voit, en fait, il comprend qu'il devient un peu acteur et il passe un petit peu du côté comédien. Et c'est là qu'on a aussi interrogé les liens, la distinction entre réel et fiction. Et on a beaucoup ri aussi. Elle n'est pas restée dans la salle, mais il y a des moments où on rigolait. Et c'était... moi, j'ai beaucoup apprécié ces thèmes cinématographiques.
Alors, parce que l'heure arrive, hein, l'heure arrive à sa fin. Avant de nous quitter, eh bien, j'aimerais te remercier, Mehdi, d'être venue, d'avoir accepté de faire cette troisième émission, d'avoir préparé, d'avoir enregistré. J'aimerais remercier très particulièrement Alice aussi, parce que c'est grâce à elle que nous avons pu aussi faire cette émission, puisqu'elle assure la partie technique ce matin. Peut-être aussi l'ensemble des participants.
Je remercie l'ensemble des participants qui ont accepté gentiment de se laisser interviewer. C'était des journées très très riches et merci à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui.
Bien, on était ravis. Pour nous quitter, j'ai une musique que j'ai choisie, j'avoue, qui est une chanteuse de jazz canadienne, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Cécile McLaurin-Salvant, qui a sorti un album qui s'appelle Mélusine en 2023 et qui peut-être est un peu dans ce croisement, dans cette fertilité des hybridations entre l'hyper contemporain et des corpus bien plus anciens, puisque sur cet album, elle reprend des chansons du XIIe siècle qu'elle va mélanger avec des synthétiseurs d'aujourd'hui. Et donc, ça fait un mélange un peu étonnant, mais assez savoureux à entendre.
D'un feu secret, je me sens consumé, sans pouvoir soulager le mal qui me possède. D'un feu secret, j'ai cessé.